Philosophie éthique, l'éthique chrétienne, par le Père Marie-Dominique Philippe, le 15 janvier 1999, à Saint-Jodard.
Le Christ est mort crucifié par les hommes, acte qui dépasse sa responsabilité et dont il ne peut pas porter les conséquences. Or, aucun chrétien ne semble être gêné par cela. La plupart ne se posent même pas la question si ça change quelque chose dans leur vie chrétienne. Pourquoi faut-il dire? Que faut-il dire en philosophe? Le mystère du scandale. C'est ça. Que les hommes aient pu condamner un homme juste par excellence. C'est alors pour le chrétien. Le chrétien, dans sa foi, il comprend que cela fait partie du mystère de la rédemption. Cette permission de Dieu vis-à-vis des hommes. Et ce mystère de la mort du Christ. Comme l'agneau qu'on mène à la boucherie. Cela fait partie du mystère du Christ crucifié, qui reste toujours un scandale et une folie pour la raison humaine. Il a été crucifié par les hommes. Dépasse sa responsabilité, dont il ne peut porter les conséquences. Jésus porte toutes les conséquences. Et Jésus accepte cela. Anathème pour ses frères. Les chrétiens semblent être gênés par ça. C'est pas gêné, on n'est pas au niveau psychologique. On est au niveau de la foi. C'est très vrai. Tout péché est contre Dieu. Et donc, c'est toujours cet orgueil de l'homme. Dieu, dans sa miséricorde, permet. Pour nous laisser libres. Alors, c'est là où on touche la miséricorde infinie du Père. Et c'est très vrai que c'est le scandale inhérent à la vie chrétienne. Que seule la foi dans la miséricorde infinie du Père et son amour, on peut dépasser. Que des quantités de chrétiens ne soient pas conscients de cela, ou sont tellement habitués de cela, que la croix du Christ passe devant. Sans s'inquiéter. Alors que ceux qui en ont conscience avec Jésus et avec Marie et avec Saint Jean soient présents à la croix. dans leur vie. C'est ça notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne implique tout le temps l'offrande de notre intelligence pour adhérer à la sagesse du Père qui dépasse toute justice humaine, qui dépasse toute raison humaine. C'est la folie de l'amour du Père. Et c'est vraiment la sagesse du Père qui nous est révélée à travers la croix du Christ. Alors que ce soit pour notre raison humaine un scandale, c'est sûr. Et c'est là où ce que le Saint-Père dit dans son encyclique, foi et raison, c'est là où, de fait, il y a un dépassement de la foi par rapport à la raison. Vous ne pouvez pas justifier, humainement parlant, la mort du Christ. Et c'est au cœur de la révélation. Vous ne pouvez pas la justifier. La mort du Christ ne peut se voir, se comprendre que dans la folie de l'amour. C'est un amour qui dépasse infiniment. Ce n'est pas contre la raison, mais ce n'est pas raisonnable. Et c'est ça le scandale de la croix. Et ce scandale de la croix, il est tout le temps présent dans la vie de l'Église, dans la vie des chrétiens. Quand on voit comment meurent martyrs des chrétiens aujourd'hui, et que humainement les gens se taisent, c'est le mystère de la croix du Christ. Et c'est très vrai que là on est en présence d'un dépassement total de notre raison. C'est pas contre, parce que c'est l'amour. Et l'amour a toujours quelque chose qui ne peut pas se justifier en dehors de l'amour. Même humainement, manière infiniment plus grande. Alors, que faut-il en dire en philosophe, c'est ça? On est en présence d'un amour fou du Père pour nous. C'est-à-dire un amour divin qui a un mode qui pour nous dépasse complètement toute justification humaine. Et nous vivons de cela. Si vous voulez, dans un cours d'éthique chrétienne, ceci serait à mettre dans ce que nous avions vu au point de départ. Le chrétien, c'est celui qui est disciple du Christ jusqu'à la croix, à partir de la croix et dans la croix, par lui, avec lui et en lui. Et c'est la croix qui est la source de la vie chrétienne. Ce n'est pas l'enfant Jésus à Bethléem. C'est la croix. L'Église en a parfaitement conscience. Et tous les saints dans l'Église ont toujours eu parfaitement conscience de cela. Et les martyrs d'aujourd'hui en ont parfaitement conscience. Alors, c'est montrer que nous sommes au-delà de la religion. Quand on dit religion chrétienne, on est au-delà de la religion. On est en face du mystère sa paternité d'amour. Et seules les vertus théologales peuvent supporter ça. Et quand on est coincé dans notre vie, ce qui peut arriver, c'est comme le noviciat, que vous ne pouvez pas justifier le noviciat par le point de vue de la prudence humaine. Quand tout va bien, oui, mais dans les moments graves, non. Il y a une folie. C'est une folie, ce que nous faisons ici. C'est pour ça que les hommes aiment mieux se taire. Et on comprend. Vous voyez, concrètement, dans notre vie, le mystère de la croix reste toujours l'ultime explication, qui n'en est pas une. Puisque ça ne dépasse complètement, c'est la folie de la croix. Et si nous ne comprenons pas cela, ça prouve que dans notre foi, il y a le mode rationnel, prudentiel, qui n'est pas dépassé. Ça, c'est capital. La croix n'est ni européenne, ni africaine, ni américaine, ni asiatique. C'est la folie de l'amour divin. Et vis-à-vis de cette folie de l'amour divin, nous sommes tous, toutes les cultures, culture asiatique, culture africaine, culture européenne, culture américaine, nous sommes tous incapables de justifier cela. C'est la folie de l'amour divin. Et c'est très important de se rappeler ça. En face du mystère de la croix, nous sommes tous obligés de dire « j'y crois » et on ne comprend rien. Je ne cherche pas à expliquer la croix. De l'extérieur, c'est sûr qu'on peut dire, c'est fou, ces chrétiens, ils reposent sur une folie. C'est vrai. Toute notre vie repose sur le Christ mort. Mais il est ressuscité. Ah. C'est la croix liée à la résurrection. Parce que la résurrection, c'est la réponse de Dieu. Dieu seul peut répondre à la folie de la croix. Dieu seul, et il a répondu. C'est évident qu'il n'y aurait pas la résurrection. Qu'est-ce que dit saint Paul ? Si la résurrection n'a pas lieu, vaine est notre foi. C'est rigoureusement vrai. Vaine. Qu'est-ce que c'est que vain, au point de vue philosophique ? C'est ce qui est sans finalité. C'est ce qui n'a pas de sens. Notre vie a son sens dans le mystère de la croix et de la résurrection. Et je ne peux pas séparer les deux. C'est pour ça qu'on dit toujours la croix glorieuse. Quand on dit la croix glorieuse, c'est une lecture de la croix dans le mystère de la résurrection. Et c'est cette lecture-là que nous devons avoir. Dieu a répondu. Parce que Dieu a répondu, ça ne veut pas dire que nous comprenons. Mais ça veut dire qu'au point de vue de notre cœur, de notre charité, nous sommes sûrs que c'est ça la vérité. Que c'est ça la sagesse. Les chrétiens se disent amis de quelqu'un qu'ils ont tué. Cela permet maintenant de faire tout ce qu'ils veulent. Dans l'idolâtrie la plus affichée. Voilà ce que dit Nietzsche. Qu'en pensez-vous? Nietzsche n'est pas un sage. Nietzsche désire tout justifier par lui qui est un surhomme. En face de Nietzsche, en face de tous ceux qui sont, il faut accepter que la vie chrétienne, vue de l'extérieur, ne peut pas se justifier. Elle repose sur la foi dans le Christ crucifié et ressuscité. Vous voyez, eux coupent la croix de la résurrection. S'il n'y avait que la foi, je ne dirais rien. J'attends la réponse du Père. C'est sûr. Étant donné ce que Jésus a dit, jusqu'au bout, Jésus a été fidèle au bon plaisir du Père sur lui. La réponse, c'est la résurrection. Bon. Alors, vous allez dire, cette réponse, oui, c'est à quelques-uns, c'est pas à tous. Il n'y a pas eu un grand, je ne sais pas, tremblement de terre pour la résurrection, pour qu'il y ait le passage de Dieu. Non. C'est un mystère de foi. C'est sûr. Jésus est apparu à des amis, les confirmés. C'est le grand mystère chrétien. Jésus n'a pas agi comme un tribun. Jésus n'a pas agi comme aujourd'hui on agirait pour attirer le plus de monde possible. C'est pas la quantité que Dieu dans son gouvernement cherche en premier lieu, c'est la qualité de l'amour. La petite Thérèse répond à Nietzsche. C'est sûr. Que dit Nietzsche devant la petite Thérèse? Elle est docteur de l'Église en face de Nietzsche. Qu'en pensez-vous? Voilà ce que j'en pense. Oui. Je crois aujourd'hui, si on ne va pas jusqu'au bout, nos réponses ne tiennent pas. Elles sont apologétiques. Je crois qu'on doit chercher toujours l'apologétique. Mais l'apologétique change. Elle modifie son artillerie. Et l'artillerie du début du siècle, où il y avait de l'apologétique en quantité, est assez bien périmé. Je crois qu'aujourd'hui, l'apologétique consiste à montrer avec une netteté ce qu'est la foi et que ce que la foi nous demande n'est pas contre notre intelligence dans ce qu'elle a de plus profond. L'intelligence de l'amour. C'est pas contre. Et ce n'est pas non plus une explication. Quand devant Nietzsche, vous prenez un argument de foi, Nietzsche dira, vous ne me répondez pas. Mais la philosophie ne justifie pas la mort du Christ. La philosophie a respecté la mort de Socrate. La philosophie doit respecter la mort du juste. Respecter, mais pas justifier. Nicodème, qui était sûrement le plus intelligent de tous ceux qui ont été présents à la mort du Christ. Et Nicodème montre bien le respect du philosophe. Il y a sans doute beaucoup plus chez lui, mais visiblement, il a respecté toujours. Et ce respect est un respect qui va jusqu'au bout de ses conséquences, c'est qu'il n'hésite pas d'être présent pour l'ensevelissement. Et on ne dit rien par rapport à la résurrection. Et je suis sûr que Nicodème, je ne dis pas que Jésus lui est nécessairement apparu, mais s'il a eu une grâce, sûrement. Bien, vous avez raison de poser ces questions. La théologie de l'éthique chrétienne n'est pas une apologétique. Elle essaie de montrer, au contraire, avec une acuité la plus nette possible, que ce qui est l'éthique chrétienne repose entièrement sur le mystère de la croix et la résurrection. Ce n'est pas viable au point de vue purement humain, c'est au-dessus. Mais ce que le philosophe peut dire, c'est que dans l'éthique chrétienne, fondée sur le Christ crucifié et ressuscité, il n'y a rien qui soit contraire à ce qu'il y a de plus noble et de plus grand dans l'homme. Dans tout ce qui représente les passions, la gloire humaine, l'éthique chrétienne apparaît tout le temps comme une folie. Ce ne sont pas les chrétiens qui reçoivent en ce monde leur récompense. Si tous terminaient dans un royaume chrétien, bien organisé et chrétien, où tous les ministres seraient des saints, et que les lois seraient les béatitudes évangéliques, dirait le royaume du Christ installé sur la terre. Mais au moment où le Christ a eu la plus grande renommée, c'est à ce moment-là où, de fait, le démon a agi directement, violemment. Vous voyez, quand vous regardez le Saint-Père actuel, qui, je crois, en tant que pape, en tant qu'homme, est quand même quelqu'un d'irréprochable. Combien chez les catholiques peu adhèrent entièrement à ce qu'il dit. Je dis maintenant, on est en présence des conséquences directes de notre vocation qui nous lie à Jésus crucifié et glorifié. Jésus ressuscité n'est plus ce monde. Et c'est là où le scandale demeure. Vous comprenez? Si Jésus ressuscité était de ce monde, nous aurions une religion, une éthique glorieuse sur terre. Mais il n'est plus de ce monde. Alors qu'il est à la croix, le grain de blé enfoui, il est de ce monde. De ce monde qu'il a accepté de se laisser prendre et condamner par ceux qui sont de ce monde. Quand on dit les chrétiens se disent amis de quelqu'un qu'ils ont tué, faisons attention. Oui, ça. En tant que chrétien individuel et que nous sommes amis du Christ, les hommes ont tué le Christ. Quand un homme assassine un autre homme, est-ce que vous êtes responsable ? C'est un homme, donc c'est vous, attention. Vous voyez, le sophisme. Parce que les hommes, tous les hommes, ça, c'est générique. C'est un être de raison. Celui qui a tué n'est pas un être de raison. Donc il y a un sophisme énorme. Et je comprends très bien comment Nietzsche le dit, parce que Nietzsche ne fait pas de différence entre l'intentionnalité générique et l'individualité personnelle. Alors que nous distinguons les deux, et que tous ceux qui doivent juger doivent distinguer les deux. C'est un individu qui tue. Ce n'est pas le genre. Et tous les hommes, c'est générique. Ça n'a jamais existé, tous les hommes. Pauvre terre, si tous les hommes existaient sur terre maintenant, vous voyez ce que ce serait. Vous n'auriez pas beaucoup de place. Hein. Tous les hommes. Qu'est-ce qui existe actuellement? Quelques hommes. Alors, on est lié à l'humanité. On est lié à l'humanité. Mais la culpabilité d'un homme singulier aujourd'hui n'est pas la même que celle d'Adam. Adam était prince de l'humanité, princeps. N'était pas simplement un père de famille, le premier des pères de famille. Non, 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 non. Adam avait une responsabilité et une grâce donnée par Dieu qui faisait qu'il était responsable. C'est ce qu'on ne voit plus, ça. Parce que justement, on n'arrive pas à préciser la différence entre l'être de raison et l'être réel. Alors quand vous dites « les chrétiens se disent amis de quelqu'un qu'ils ont tué », je ne me dis pas « amis » dans le sens de l'amitié humaine. Vis-à-vis de celui qui a tué le Christ. Je ne suis pas l'ami, puisque je ne suis pas d'accord. Donc je ne suis pas l'ami. On est amis quand on coopère, qu'on fait la même action. Cela permet maintenant de faire tout ce qu'il veulent. Justement, là, je suis pas d'accord. Et mais le sophisme, et ça c'est tout le temps le sophisme, c'est comme le sophisme de Feuerbach. C'est l'ontologisme de gauche. Tout ce qu'on pense, c'est le réel, non? Le réel est plus que ce qu'on pense. Tous les hommes réunis sont plus que ce que je pense quand je dis tous les hommes. Donc Dieu, qui dans son regard de sagesse, regarde la réalité de tous les hommes. Moi, je peux pas. Alors, nous allons. Bienheureux les pauvres.